Peut-on apprendre à être heureux ? Et est-ce bien même de vouloir être heureux ? Après tout, ce n'est peut-être pas indispensable. Le but de notre vie, est-ce que vraiment c'est d'être heureux ou est-ce que ça ne serait pas plutôt d'être utile au monde, de servir à quelque chose, que sa vie ait un sens ? Finalement, est-ce que ça n'est pas là une question extrêmement égoïste, une question moderne ? Alors on se la pose pour nous, mais maintenant je vous demanderai, est-ce que Jésus a eu une vie heureuse ? Est-ce que c'est la question ? Est-ce que Calvin a eu une vie heureuse ? Est-ce que Bach a eu une vie heureuse ? Est-ce que Mozart a eu une vie heureuse ? Napoléon ? Je ne sais pas qui vous voulez. Tous ces gens dont nous disons ce sont les plus grands de l'humanité, est-ce qu'ils ont eu une vie heureuse ? En effet, on pourrait dire que ce n'est pas la question. Parce que le but de la vie, ce n'est pas de se mettre les doigts de pied en éventail. Le but de la vie, c'est d'être acteur dans ce monde. C'est de contribuer à un monde meilleur. C'est d'apporter quelque chose aux autres. C'est d'amener peut-être, de donner aux autres un petit peu de paix, un peu plus de tranquillité, de bien-être. Donc je dirais finalement, et ça c'est peut-être un effet d'une éducation protestante très austère, le but c'est pas d'être heureux, le but c'est d'être utile. Et pourtant, je dois quand même dire que dans l'Évangile, le bonheur, il est partout. Et pourtant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier mot de la prédication du Christ. 8 fois « heureux ». Pourtant, c'est le dernier mot pratiquement de l'enseignement du Christ avant sa mort. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, et il dit « Vous êtes heureux si vous savez cela et que vous le mettez en pratique ». Pourtant, c'est le premier mot du livre des psaumes. « Heureux celui qui ne s'assied pas au conseil des méchants », etc. Et donc oui, certainement, on ne peut pas dire que l'Évangile ce soit une sorte de chemin de devoir où l'on dirait « Il faut oublier son propre bonheur et simplement faire ce que l'on doit ». L'Évangile, on ne peut pas dire que cela puisse être une chose pareille. L'Évangile, ça n'est pas l'austérité, en déplaise aux calviniens purs et durs, ou n'en déplaise à une certaine tradition protestante très rigoriste. L'Évangile, ce n'est pas de dire « faites votre malheur, soyez triste, soyez austère, ne rigolez pas, ne soyez pas heureux, mais soyez pur, soyez bon, soyez juste ». Non, je ne pense pas qu'on puisse dire une chose pareille. Je pense en effet que, non seulement à cause de l'Évangile, mais même en théorie, pour moi-même, je crois que le bonheur, c'est quand même important. Et c'est important. C'est important, ne serait-ce que parce que je crois qu'on ne peut vraiment faire bien quelque chose que si on en est heureux. Un bon musicien, c'est forcément quelqu'un qui est heureux quand il joue. Un musicien qui jouerait très bien mais qui détesterait la musique et qui serait triste dans les concerts n'attirerait personne. Un médecin qui n'aime pas ce qu'il fait pourrait-il être un bon médecin ? Et comment un pasteur triste pourrait-il annoncer une bonne nouvelle ? En effet, je crois qu'il est indispensable, même pour être utile, d'être heureux d'une certaine manière. Et donc, voyez-vous, il y a là, dans cet évangile, une sorte de paradoxe. L'évangile, il est vrai, nous dit quand même que, finalement, notre propre plaisir n'est pas la question. C'est dit quand même, de mille manières. Je vous laisse trouver les passages, mais sans arrêt, le Christ dit, voilà, il faut se charger de sa croix, et puis, qui veut sauver sa vie la perdra, etc. Non, le problème de l'évangile, c'est quand même de dire, la recherche du plaisir n'est pas notre question. L'Évangile nous apprend à dire ne soyez pas, je crois, ne cherchez pas dans votre vie votre propre bonheur. Et pourtant, l'Évangile nous dit aussi que si on suit l'Évangile, on trouvera le bonheur. Alors il y a là une sorte de contradiction. À la fois, l'Évangile nous demande de nous sacrifier et en même temps, il nous promet la vie. Alors, lequel des deux ? Eh bien, je pense que la solution est simple. La solution, et elle n'est peut-être pas très originale, j'imagine que vous y avez déjà pensé, je crois que la solution de l'Évangile, c'est de dire qu'il ne faut pas rechercher son propre bonheur et que c'est en fait en faisant cela qu'on a des chances de le trouver. C'est-à-dire que le bonheur ne se trouve que lorsque l'on a renoncé à le chercher. Ça, on le trouve effectivement dans cette phrase très célèbre et complexe. Quand Jésus dit « Qui veut sauver sa vie la perdra » ou « Qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera », c'est bien cela. Je pourrais dire « Qui veut trouver le bonheur dans sa vie ne le trouvera jamais » et « Celui qui renonce à chercher le bonheur pour voir sa vie autrement trouvera malgré lui, je dirais, le bonheur. » Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faudrait fuir le bonheur ou qu'il faudrait faire exprès de se rendre malheureux en pensant que ça nous accumulerait des mérites de tous ordres. Non, il ne s'agit pas de cela, mais plutôt de ne pas faire du bonheur l'objet de sa quête. Alors le bonheur, bon, comment peut-il quand même arriver? Où se cache-t-il? Eh bien là-dessus, je crois que le message de l'Évangile est très clair. Je vous ai cité dans les lectures deux versets qui me semblent, à mon avis, absolument fondamentaux. L'un, c'est cet agrapha, donc, des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, qui est devenu une sorte de poncif. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous le savez depuis votre plus tendre enfance. Et plus important encore, peut-être effectivement, ce passage de Jésus après avoir lavé les pieds de ses disciples, et il dit « Je vous ai donné un exemple pour que vous fassiez de même, pour que vous vous fassiez serviteurs les uns des autres. » Et il dit « Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Donc effectivement, le message de l'Évangile, je crois, est clair. Le bonheur, il se trouve dans une seule chose, c'est dans le service. Et dans une seule chose qui est peut-être la même, dans le fait de donner plutôt que de recevoir. Et du coup, je crois comprendre ce qu'il en est. C'est qu'effectivement, le bonheur, c'est de sortir de soi, de sortir de son égoïsme et de se tourner vers les autres. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver le bonheur si on le cherche. Parce que chercher son bonheur, c'est être dans une démarche profondément égoïste et centrée vers soi-même. Or, le bonheur, c'est justement se tourner vers les autres. Le bonheur, c'est sortir de soi-même, arrêter de se scruter, de se regarder, de vouloir pour soi, pour se mettre au service du monde, au service des autres, et pour donner. C'est pourquoi, cette exhortation évangélique en disant « Le sens de notre vie ne doit pas être de rechercher à être heureux, mais de se mettre au service des autres » n'est pas idiote, puisque c'est justement en se considérant au service de l'autre qu'on peut être heureux, et c'est justement en donnant que l'on peut avoir le plus grand bonheur. Le bonheur, c'est de s'arracher à son égoïsme. La seule chose qui rende malheureux, c'est l'égoïsme. Et ça, on le trouve d'ailleurs dans un terme amusant qui est l'extase. Ça, c'est un mot qu'on utilise parfois d'une façon triviale ou que disent les jeunes. Ah, c'est l'extase. L'extase, c'est le plus grand des bonheurs. Or, en philosophie, on explique que extase, ça vient de ek, qui veut dire en dehors, et stasis, se tenir. L'extase, ça veut dire se tenir en dehors. Et donc, l'extase, c'est effectivement apprendre à se tenir en dehors de soi. C'est bien ça, sortir de soi-même. Effectivement, je crois que c'est cela, le bonheur, l'extase, sortir de soi-même. Et d'ailleurs, ça aussi c'est une chose bien connue, on le répète souvent dans cette chaire et ailleurs, le mot heureux, 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 qui revient si souvent dans l'Écriture, ce mot heureux vient d'un terme hébreu qui veut dire être debout et en marche. Ça, c'est très extraordinaire. Quand on sait ça, on a tout compris sur le bonheur évangélique. C'est que pour la Bible, être heureux, c'est être en marche, c'est être en mouvement, c'est être en route. Donc voyez-vous, le bonheur, ce n'est pas un état, c'est une démarche. Et être heureux, ce n'est pas avoir la chance de consommer des choses agréables. Être heureux, c'est être dans une dynamique. Et du coup, on peut comprendre également que notre bonheur, ce n'est pas une sorte de chef-d'œuvre en péril qu'il faudrait conserver. Pour l'instant, je suis heureux pourvu que ça dure, pourvu que rien ne m'arrive, pourvu que je puisse continuer d'avoir ces chances. Le bonheur, ce n'est pas comme ça. Le bonheur, c'est justement de sortir de son confort, de sortir des états où l'on est. Le bonheur, c'est d'être en marche et d'être en route. Le bonheur même, c'est la vie d'Abraham. Va, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans le pays, dans l'endroit que je t'indiquerai. Et là, je te donnerai la bénédiction. Le bonheur, ce n'est pas une forteresse à garder contre les agressions extérieures, mais justement, le bonheur, c'est d'avancer, de s'adapter, de changer, de se transformer, de muter, de muer. Bref, le bonheur, c'est de vivre. Le bonheur, c'est la dynamique. Ça, c'est fondamental. Alors, ça a un corollaire, c'est que du coup, le bonheur, c'est pas très facile. Et en tout cas, que le bonheur, ce n'est pas forcément la tranquillité. Parce que changer, s'arracher, muter, avancer, bouger, se transformer, s'adapter, ça n'est pas quelque chose de facile et de commode. Mais ça a un autre avantage quand même, c'est que du coup, en considérant le bonheur non pas comme un état, mais comme une démarche, eh bien, ça le rend, je dirais, beaucoup moins fragile. Parce qu'en effet, quand on dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ça c'est vrai. Je réfléchissais à savoir comment expliquer ça aux enfants des écoles bibliques et on dit « mais c'est pas très commode ». Je ne sais pas si les enfants sont vraiment capables de le comprendre. En même temps, ils le savent déjà. Je pense qu'ils le pressentent parce qu'il y a un grand bonheur à donner. Mais je crois que c'est quelque chose que l'on peut apprendre à découvrir progressivement et quelque chose dont on peut vraiment, je dirais, comprendre toute la profondeur et l'importance. Et c'est fondamental, pourquoi ? Parce que si je dis que le bonheur, c'est de recevoir, eh bien, j'ai peur. J'ai peur parce que trouverai-je assez de gens pour me donner ? Et si quelqu'un arrête de me donner, où va passer mon bonheur ? C'est-à-dire que croire que le bonheur, c'est de posséder quelque chose, croire que le bonheur, c'est une chance que j'ai, c'est en même temps mettre son bonheur en péril. En péril qu'il cesse, en péril que l'on ne me donne plus. C'est être, je dirais, à la remorque des autres, à la remorque des événements. Pour être heureux, il faut que je sois en bonne santé. Et chaque fois que je vais voir mon médecin, j'ai peur de ne plus être heureux, parce qu'il va me trouver quelque chose, forcément. Et donc, c'est terrible, ça. Alors que si le bonheur, c'est de donner, eh bien, je n'ai aucun problème, parce que le bonheur ne dépend plus des événements extérieurs. Le bonheur ne dépend même plus des autres qui me donnent ou qui me refusent. Le bonheur ne dépend plus que de moi qui peux choisir de donner. Et ça, donner, on le peut toujours et toute sa vie. Quelle que soit sa situation, quel que soit ce que l'on est et où que l'on soit, toujours on peut donner. Et donc cette petite phrase qui semble si simple et qui est tellement usée, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, eh bien il faut la méditer parce que je crois qu'elle est infiniment profonde et elle est finalement une forme d'espérance absolument extraordinaire. En effet, le bonheur c'est donc une démarche de se tourner vers les autres. Le bonheur c'est bien cela, c'est d'apprendre justement à se dépréoccuper de se dépréoccuper de soi-même pour se préoccuper de l'autre. C'est ça le bonheur. Et ça a un nom, ça. Se dépréoccuper de soi pour se préoccuper de l'autre, ça a un nom. Ça s'appelle l'amour. Et effectivement, je crois qu'il n'y a pas de bonheur en dehors de l'amour. Donc vous voyez, l'évangile, de ce côté-là, est très cohérent. Et cette petite lecture des choses, je crois, permet également de mieux comprendre peut-être le message des béatitudes. Ces 8 fois heureux, là, qui sont dits par Jésus au début de son ministère. Eh bien, si on réfléchit bien, on se rend compte que ces béatitudes vont dans le sens de ce que je vous ai dit. C'est que les béatitudes ne sont justement jamais passives. Ils ne disent pas « heureux serez-vous si vous êtes en bonne santé, heureux serez-vous si vous avez des bons enfants, un bon couple, un bon travail, une bonne famille, un pays en paix, etc. » Il ne dit pas « Heureux serez-vous si on vous fiche la paix », mais « Heureux ceux qui procurent la paix ». C'est effectivement complètement dans l'autre sens, et ça, on n'y pense pas. Nous, nous dirions « Ah, ce serait merveilleux d'avoir la paix ». Non, « Heureux ceux qui procurent la paix ». C'est bien ça le bonheur, ne pas vouloir avoir la paix pour soi, mais la donner. Et effectivement, le paradoxe extraordinaire, c'est que pour avoir soi-même le bonheur, il faut le donner. Pour avoir soi-même la paix, il faut la donner. Pour avoir soi-même de l'amour, il faut aimer. Donc, heureux ceux qui procurent la paix. Et le Christ dit aussi, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui sont humbles, heureux ceux qui sont doux. Nous aurions préféré dire, heureux ceux qui sont entourés d'amis et de proches, qui sont doux et humbles de cœur. Heureux ceux qui ont autour d'eux des gens qui ont le cœur pur. C'est merveilleux. Ben oui, je ne dis pas que c'est désagréable, et je ne dis pas qu'il ne faille pas en profiter si vous avez autour de vous des gens humbles, doux, au cœur pur, miséricordieux et tout ça. Mais c'est heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui sont humbles. Heureux ceux qui sont doux. De même, il dit « Heureux ceux qui font miséricorde », c'est-à-dire ceux qui arrivent à pardonner et à aimer. Et il ne dit pas « Heureux ceux à qui l'on fait miséricorde, heureux ceux qui sont aimés, heureux ceux qui sont miséricordieux, heureux ceux qui aiment, heureux ceux qui pardonnent. » Voyez-vous, les béatitudes vont toutes dans ce sens-là. Et elles sont toujours, non pas par rapport à soi, mais par rapport à ce que l'on peut apporter aux autres. Et puis, si on continue dans les béatitudes, il y a aussi les quatre béatitudes plus difficiles, vous savez. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui ont faim et soif de justice, et heureux ceux qui sont persécutés. Je crois que c'est la même chose. Toutes ces béatitudes, je dirais, en creux, sont très paradoxales pour nous. Et elles nous montrent qu'effectivement, le bonheur ne se trouve pas par une accumulation de choses, mais plutôt, d'une certaine manière, par le creux et le vide qui est en nous, qui permet d'accueillir quelque chose. C'est-à-dire que le bonheur, c'est quelque chose qui s'accueille. Et pour accueillir le bonheur, il faut avoir de la place. Heureux ceux qui sont pauvres. Ce n'est pas heureux ceux qui ont une foi extraordinaire, ceux qui sont pleins de confiance, pleins d'espérance. Heureux ceux qui se savent pauvres spirituellement. Pourquoi ? Ben parce que justement, il y a quelque chose qui peut se passer en eux. Ils peuvent être dans une démarche, dans une quête. Heureux celui qui a faim et soif, parce que celui qui a faim et soif, il désire, il est en route, il est dans une quête. Et celui qui a faim et soif, il est heureux parce que, eh ben, peut toujours avoir faim et soif et toujours être en marche et toujours être en mouvement. Et même pleurer, heureux celui qui pleure, parce que pleurer, c'est dire que l'on s'est engagé. Pleurer, c'est dire que l'on s'est jeté dans le monde. Pleurer, c'est dire aussi qu'on a peut-être aimé quelqu'un qu'on a perdu. Pleurer, cela veut dire que l'on s'est préoccupé de quelque chose, que l'on compatit. Donc oui, effectivement, le bonheur évangélique, ce n'est pas l'absence de malheur, ce n'est pas le fait de ne pas souffrir. Le bonheur évangélique, c'est d'être dans une dynamique de la vie. Parce que le bonheur, c'est un voyage qui me fait sortir de moi-même pour aller vers l'autre. Et quand Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés », là on retrouve mon point de départ, oui, persécutés à cause de la justice, pas à cause de n'importe quoi. Ce qui est le plus grand bonheur, c'est de faire sa mission, c'est d'avoir une utilité, c'est de servir pour les autres, de comprendre que l'on peut avoir un rôle pour les autres, que l'on peut donner quelque chose, même au prix de son propre confort, même au prix, dirais-je, de sa propre vie. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, nous dit Jésus. Alors même si d'une certaine manière, il faut interpréter ces situations comme vraiment négatives, avoir faim, pleurer, etc., je pense que finalement ces quatre situations négatives des béatitudes ne sont pas si négatives que soi, parce qu'elles ont un autre mérite. Cet autre mérite, c'est qu'elles entament notre égoïsme. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui sont persécutés, voilà justement qui nous empêche de nous asseoir sur notre trésor en disant « j'y suis, j'y reste » pourvu que ça dure. Tout ça, ce sont des choses qui nous déstabilisent, qui coupent, je dirais, les pieds du fauteuil, de la chaise longue sur laquelle nous avions voulu nous asseoir. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, finalement, ce sont toutes ces difficultés de la vie, peut-être, qui nous aiguillonnent et qui nous empêchent de chercher le bonheur là où il n'est pas, pour nous forcer, justement, à sortir de notre égoïsme, de notre paresse, qui nous oblige à ne pas rester là où nous sommes pour aller ailleurs, pour avancer. Ce sont peut-être des choses qui entament notre confiance en nous-mêmes, qui enlèvent, je dirais, le plein de je ne sais quoi qui est en nous pour mettre de l'espace, pour pouvoir désirer, pour pouvoir accueillir et pour pouvoir avancer. Et c'est pourquoi aussi, tout le travail de la religion, c'est justement de dire, il y a, je dirais, quelque chose de plus important que vous. Cette chose plus importante que vous, c'est l'autre, d'accord, mais c'est aussi l'autre avec un grand A, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même. Et donc le chrétien est appelé justement à se tourner vers un autre que lui-même. Et la démarche spirituelle qui consiste à se tourner vers Dieu, c'est justement de ne pas se prendre soi-même pour Dieu. Et de se dire, le bonheur, je ne vais pas le trouver en m'auto-scrutant moi-même, je vais le trouver en me tournant vers Dieu et finalement en m'évaporant pour me dissoudre en Dieu. Et ça, c'est le comble, je dirais, du bonheur, le bonheur mystique. Effectivement, quand je disais que c'est de servir, ben c'est de servir l'autre, mais ce n'est pas simplement de dire, tiens, l'autre a soif, je lui donne à boire. C'est de servir aussi une cause extraordinaire, de servir la paix, l'amour, la joie, c'est-à-dire de servir le projet créateur de Dieu. Et c'est aussi de se tourner par l'amour vers l'autre, qui est mon prochain, et d'une façon plus totale et plus absolue, d'avoir dans sa vie une sorte de démarche, je dirais, de kénose, terme technique théologique, c'est-à-dire de se vider soi-même pour se transvaser dans le tout autre qui est Dieu. Et le bonheur ne peut être que là. Parce qu'à ce moment-là, d'une certaine manière, je ne crains plus rien. Comme dit le psaume 118, « Que pourrait un homme contre moi ?» Je ne suis plus finalement dépendant de ce qui se passe en moi, de ce que je vis, des chances ou des malchances que j'ai, mais ma vie, elle est finalement dans une autre sphère, dans un autre domaine, parce que le bonheur, c'est effectivement de donner, et le bonheur, c'est de servir. Alors, peut-on apprendre à être heureux? Ben oui, je le crois. En apprenant à se déposséder soi-même, en apprenant à se libérer de son égoïsme, en apprenant à s'ouvrir aux autres, et en apprenant l'amour. Et ça, c'est quelque chose de possible, mais qui demande, je crois, toute une vie, et qui est extrêmement long, mais le bonheur n'est pas une sorte de, je dirais, de mat de cocagne où on attraperait le saucisson en arrivant au bout. Le bonheur, il est tout au long du chemin, finalement dans toutes ces choses extraordinaires que l'on cueille en passant, dans cette route qui nous mène, je dirais, vers l'amour absolu et vers le don de soi, qui est à la fois le sens même de l'amour et qui est, je crois, le secret profond du bonheur. Amen.